Bonjour et merci pour ces chants magnifiques, pour ces lectures, vos prières, votre participation à cette partie de louange du culte. C'est toujours un encouragement, une joie d'être ensemble, de pouvoir louer Dieu ensemble. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Et au chapitre 21, et nous lirons les 12 ou 14 premiers versets de ce chapitre 21. Donc, Évangile de Jean, chapitre 21, nous sommes dans la période des 40 jours qui se situe entre la résurrection de Jésus et puis son ascension. Jésus est déjà apparu deux fois à ses disciples, apeurés, effrayé même, et là il va se montrer une troisième fois. Donc, Jean 21, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, Nathanaël, qui est probablement aussi le Barthélemy dans d'autres listes, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, l'apôtre Jean, l'auteur de cet évangile, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et il le leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Les disciples avaient donc déjà vu Jésus ressuscité. Ils savaient qu'il était revenu de la mort à la vie. Et même Thomas, qui n'était pas là la dernière fois, a eu la visite de Jésus comme il l'avait demandé. Il avait dit, « Ouais, j'étais pas là, mais si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, je ne croirai pas. » Et Jésus a répondu à sa demande. Pourtant, Jésus n'était pas là lorsque Thomas a fait cette demande aux disciples, aux apôtres. Mais Jésus l'avait quand même entendu, parce que Jésus ressuscité entend tout. Et mot pour mot, il lui rappelle sa demande comme s'il avait été là au moment où il l'avait formulée. Mais ont-ils bien intégré la résurrection de Jésus dans leur tête, dans leurs actions, dans leur vie? Ils sont revenus au pays, sur les bords de la mer de Tibériade. Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Nathanaël, deux autres disciples. C'étaient des pêcheurs, c'était leur profession. Même que Pierre, Jacques et Jean étaient associés dans leur entreprise de pêche. Et puis, ils avaient abandonné leur travail, ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans. Et maintenant, ils reprennent leurs anciennes habitudes. Ils partent en pleine mer pour la pêche, en pleine nuit aussi, ils jettent le filet, le remontent, le rejettent à l'eau. Geste qu'ils renouvellent pendant toute la nuit, pourtant propice pour attraper du poisson. Les pêcheurs savent que c'est au petit matin, lorsqu'il fait encore nuit, que ça mord. Mais ils ne prennent rien. Les poissons se cachent, ou alors ils sont malins. Ça arrive que le poisson soit malin. Rien, pas même de quoi faire une friture. Alors c'est vexant pour des artisans pêcheurs. Et puis surtout, ils avaient quand même travaillé toute la nuit. Et ils rentrent sans rien. Quel contraste avec le filet plein de 153 gros poissons du petit matin. C'est à croire que Jésus a fait en sorte qu'ils ne prennent rien pendant la nuit pour manifester sa gloire. Je crois qu'il en est de même parfois, peut-être souvent, dans notre vie chrétienne. Dieu nous fait attendre, patienter, et c'est dur de patienter, pour mieux se glorifier lorsqu'il répond. Les témoignages de délivrance ou d'action extraordinaire de Dieu que nous avons entendus dernièrement, ici même, nous font du bien. Et le témoignage de Lily tout à l'heure m'a fait du bien. Peut-être que le plus grand des miracles, et nous l'oublions souvent, c'est celui de notre conversion. J'étais aveugle, c'est ce que Lily nous a dit, et puis j'ai vu. Quel miracle extraordinaire. Oui, Dieu agit. Dieu fait des miracles aujourd'hui. Mais il nous laisse aussi, comme pour les disciples, passer toute une nuit sans rien prendre. Et dans notre vie, la nuit peut durer plusieurs mois, ou même plusieurs années. C'est la nuit de l'attente, la nuit de la patience, la nuit de la persévérance. Jérémie, le prophète, disait « Il est bon d'attendre en silence le salut, la délivrance de l'Éternel. » Lamentations 3:26. Et dans ma vie avec le Seigneur, et je vais arriver l'année prochaine à 50 ans de vie avec le Seigneur après ma conversion. J'ai vu des délivrances, parfois même spectaculaires, du Seigneur. Mais j'ai dû aussi apprendre, et ça continue toujours, à être patient, à attendre en silence parce que Dieu ne répondait pas à mes prières. Et même si je donne l'impression de ne pas être un excité, du moins je l'espère, d'être plutôt un homme calme et posé, je trouve difficile de ne pas avoir de réponse à mes prières quand je le souhaite et de devoir attendre en silence, parfois longtemps, si elle arrive, la réponse de Dieu. Pour revenir à notre texte, quelle victoire éclatante dans la vie de ces 7 hommes lorsqu'ils ont ramené le filet plein à craquer sur la rive et qu'ils se sont mis à compter les poissons. Alors, première leçon de ce texte, soyons patients. Ne doutons pas de la bonté de Dieu. Ce n'est pas parce que la nuit a été longue que Dieu ne nous a pas entendus. C'est qu'il veut que nous lui fassions confiance malgré tout et que nous nous exercions la patience qui est un fruit de l'esprit. C'est écrit en première feuille, en première page de votre feuille. Galates 5, 26, c'est ça? Ou 22? 22. Le roi Saül a été destitué de la royauté parce qu'il avait manqué de patience. Et le prêtre Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est devenu muet parce qu'il a manqué de foi et de patience à l'annonce de la naissance miraculeuse de son fils qui s'appellera Jean-Baptiste. Et on pourrait multiplier les exemples avec Abraham et la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Bien d'autres exemples où on voit que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que Dieu prend son temps. Dieu lui-même, nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, use de patience envers nous. Deuxièmement, quand Dieu décide de se manifester, son intervention est éclatante, rien ne l'arrête et le miracle se produit. Alors soulignons que les disciples ne reconnaissent pas Jésus tout de suite sur la plage. C'est le matin. Les disciples sont dans un clair-obscur. Ils sont occupés à leur pêche, enfin, ou à celle qu'ils n'ont pas prise. Ils sont à une centaine de mètres du rivage. Jésus ne s'est pas annoncé. Il est là, mais il voit une silhouette. Curieusement, alors que ce sont quand même des pros, ils entendent la voix d'un homme sur la plage leur dire de jeter le filet du côté droit, pas du côté gauche, du côté droit, et ils obéissent. On se demande pourquoi. L'intuition, le conseil de la dernière chance, et le miracle a lieu, mais le considèrent-ils comme vraiment un miracle ? Un banc de poissons peut passer par là, juste au bon moment, in extremis. Ça arrive aussi dans la vie. Ils auraient pu en rester là. S'il y avait eu l'intuition spirituelle de l'apôtre Jean, c'est lui qui se cache derrière le disciple que Jésus aimait, qui dit à Pierre, qui susurre à Pierre, c'est le Seigneur. Mon expérience me dit que lorsque Dieu tarde à répondre et que nous finissons quand même par avoir la réponse à notre prière, nous ne sommes pas toujours conscients que c'est Dieu qui agit. Nous pensons que les choses peuvent aussi s'arranger toute seule. Mais le Seigneur est là, comme dit le chant, au cœur de notre vie. Et souvent, il se manifeste incognito, sans se faire remarquer. Savons-nous vraiment reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies? Comme Jacob à Bethel, nous disons parfois, le Seigneur est présent dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Mais Dieu agit, il prend soin de nous. Et s'il ne répond pas à notre demande comme nous le voudrions, il s'occupe quand même de nous, jamais. Il nous abandonne toujours, il nous aime. Troisièmement, parmi les sept disciples présents dans la barque, Jean a le premier cette intuition spirituelle qui lui fait dire à Pierre, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, ce genre de miracle, d'action, ne peut venir que du Seigneur. Qu'est-ce qui lui fait dire cette parole pleine de conviction? Je crois que dans cette pêche miraculeuse, il y avait la signature du Seigneur. Ce miracle ressemblait tant à ce qu'ils avaient connu pendant les 3 ans qu'ils ont passé avec le Seigneur. Et à son tour, Pierre reçoit cette conviction que sur le rivage, ce n'est pas un homme quelconque qui se tient là, mais c'est Jésus, le Jésus ressuscité, déjà apparu à 2 reprises. Et Jean et Pierre, à ce moment-là précis, ont dû se souvenir d'une autre pêche miraculeuse qui ressemble un peu presque comme deux gouttes d'eau à celle-ci. On trouve ce récit, cette autre pêche miraculeuse au début de leur ministère avec Jésus dans Luc au chapitre 5. C'est presque la même chose, pas tout à fait, mais il y a des points communs. Ils n'avaient rien pris non plus pendant la nuit. Et puis Jésus leur dit, allez en eau profonde, jetez le filet. Ils obéissent et ils prennent tant de poissons qu'ils doivent appeler leurs collaborateurs parce que il y en a trop. Jean ne nous dit pas pour quelle raison Pierre se jette dans la mer. On peut comprendre que pour lui, la conviction de savoir que c'est Jésus qu'il a sur la rive est tellement forte qu'il ne peut faire autrement que d'aller à sa rencontre pour se prosterner devant lui, sans doute, peut-être aussi pour ne pas rater cette rencontre avec Jésus, parce que il sait que Jésus peut apparaître soudainement, mais il peut aussi disparaître soudainement. Imaginons la joie de l'apôtre Jean lorsqu'il dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Joie de revoir ce Jésus qu'ils aimaient. Joie de le voir agir comme toujours, c'est-à-dire par des miracles dont ils ont été les témoins. C'est le même Jésus, même s'il n'est plus avec eux, on pourrait dire en chair et en os. Et puis, petit à petit, les cinq autres disciples ont aussi cette conviction intérieure que c'est bien Jésus qui leur a préparé un bon casse-croûte sur la plage, après une nuit de travail. Verset 12, « Ils savaient que c'était le Seigneur. » Ont-ils prié pour avoir une pêche miraculeuse ? Non, il ne semble pas. Jésus a fait ce miracle pour se faire reconnaître, oui, mais il aurait pu très bien arriver sur la plage et simplement les réconforter, sans faire cette pêche miraculeuse. Sans doute voulait-il leur montrer que s'il n'était pas avec eux dans la barque, il était là quand même, même lorsqu'ils ne pensaient pas à lui et qu'ils étaient préoccupés dans leur travail, par leur travail. Et là aussi, je crois qu'il en est de même pour nous. Jésus est toujours avec nous, même si on ne le voit pas, dans notre travail, dans notre vie familiale, dans notre vie personnelle. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'au dernier jour de notre vie, il use de grâce envers nous. Alors y a-t-il dans notre cœur aussi une petite voix qui sait reconnaître les manifestations de Dieu dans notre vie? Parfois, c'est vrai, merci Seigneur, Dieu nous donne des réponses précises, même soudaines, ça arrive à nos prières. Et alors, il n'est pas facile, pas difficile, pardon, de dire « c'est le Seigneur », c'est une réponse à la prière. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Mais Dieu agit quand même. Et il nous encourage aussi peut-être par des petits signes d'encouragement qui nous disent « je t'ai entendu ». Mais je ne réponds pas comme tu le souhaites, patience. Ou encore, accepte que ma volonté ne va pas dans ton sens. Quatrièmement, Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Nathanaël et deux autres disciples avaient fait partie de ce groupe des apôtres et des disciples qui avaient abandonné leur profession pour répondre à l'appel de Jésus. Et pendant 3 ans, ils avaient écouté l'enseignement du Maître. Et ils ont été ébahis devant ces miracles extraordinaires. Et maintenant, ils se retrouvent seuls, sans Jésus. Ils savent qu'il est ressuscité, mais ils n'en mesurent pas encore toute la portée. Et tout naturellement, ils reprennent leur vie d'avant. Cette vie où on pouvait partir en mer toute une nuit et rentrer bredouille. Mais ce Jésus qui les attend sur la plage veut leur faire comprendre, j'ai noté trois choses, peut-être plus. Premièrement, jamais plus rien ne sera comme avant, parce que bien qu'absent de corps, je suis, dit Jésus, présent avec vous. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela, je pense qu'il l'avait un peu oublié. Comme nous, peut-être aussi, nous l'oublions. Et Jésus nous dit, jamais, depuis votre conversion, vous serez le même comme avant. Parce que je suis maintenant présent, tous les jours, dans votre vie. Et puis, deuxièmement, toute l'expérience qu'ils ont accumulée au cours de ces 3 ans passés avec Jésus leur sert de leçon pour décrypter, et avec Dieu, il faut souvent décrypter, reconnaître la main du Seigneur dans ce qu'ils font. Je le répète, la pêche qu'ils viennent de faire au petit matin porte la signature de leur maître. Elle leur appelle d'autres miracles, d'autres paroles, et peut-être auraient-ils dû être plus attentifs à cette silhouette, à cet homme qui était là sur la plage et qui leur dit « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Enfant, drôle de façon de s'adresser à des hommes pêcheurs, hein, costauds, hein. Enfin je suppose. À plusieurs reprises, Jésus a appelé ses disciples « enfants, mes petits-enfants ». Jean chapitre 16, verset 33, Marc chapitre 10, verset 24. Et ce « n'avez-vous rien à manger » n'aurait-il pas dû leur rappeler là où les multiplications de pain et de poisson, donnez-leur vous-même à manger. Et puis, là aussi je le rappelle, il y avait cette première pêche miraculeuse. Tout cela était comme des couches successives de sédiments qui devaient constituer le roc solide sur lequel devait se construire leur foi. Jésus voulait faire d'eux des disciples qui devaient s'appuyer sur la parole et les actes de leur maître pour poursuivre son œuvre. Et puis, troisième chose, c'est au fond du cœur que cela se passe, avec l'aide du Saint-Esprit. Car je crois que ce n'est pas de lui-même que l'apôtre Jean a eu cette intuition profonde, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a permis cela. Alors en nous aussi, ces couches successives déposées dans notre cœur, peut-être jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sont là pour faire de nous des chrétiens adultes, qui ne seront pas emportés par la première bourrasque. Et ces couches successives s'appellent lecture de la Bible et prière, c'est-à-dire communion avec le Seigneur. Ça s'appelle aussi communion fraternelle, autrement dit encouragement. Et la nourriture spirituelle qui en découle, dimanche après dimanche ou d'autres jours de la semaine aussi. D'où l'importance de participer aux rencontres de l'Église où nous pouvons vivre ces réalités de ce qui s'accumule en nous, qui nous permet de mieux connaître le Seigneur, d'être plus fort. Et puis, il y a aussi les expériences avec Dieu qui fortifient notre foi. Alors soyons reconnaissants pour l'œuvre de Dieu en nous, tu es vivant. Confions-nous en lui, qu'il réponde ou non à nos prières. En tout cas, Parfois, Dieu répond et il dit non, je ne suis pas d'accord. C'est une réponse que nous avons parfois de la peine à saisir. Réjouissons-nous d'appartenir à un tel Seigneur pour qui rien n'est impossible. Appuyons-nous sur sa grâce, sur son amour. Et puis, voyez avec ce texte comment le Seigneur prend soin de ses disciples. Après toute une nuit de travail, il leur donne une quantité de poissons incroyable, comme ils n'auraient jamais pu en attraper. Et puis, il leur offre un pique-nique sur la plage. N'est-ce pas une autre signature de notre Dieu qui prouve ainsi la tendresse, l'amour qu'il porte à ses enfants ? Amen.